Quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Bonsoir.
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 Bonsoir. Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Bonsoir, on est mercredi 3 novembre et c'est l'heure du Canu Info. Bonsoir, de quoi parlera-t-on ce soir? Après une petite interview par laquelle on va commencer tout de suite.
Ah pardon, je fais un peu de bruit dans mon micro, mais c'est parce que... Non, c'est très bien. Mais c'est à cause du petit cellophane qu'on met pour éviter de se covider avec les mousses de micro.
Voilà. Et donc, après une petite interview de deux membres du comité de soutien aux inculpés antifascistes lyonnais, on parlera, on aura une petite brève. On parlera ensuite des CRS, auteurs de la mort de Zineb Redouane, qui écopent d'un malheureux stage de formation.
Bah ouais, c'est dur d'être CRS. Les chasseurs ne massacrent pas que les animaux, on verra ça plus en détail.
Ensuite, on reviendra sur la fermeture du centre d'accueil des migrants de Briançon.
Et puis, on verra comment, à quel point le nucléaire nous sauvera des catastrophes.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Et le 23 septembre dernier, 7 personnes ont été arrêtées à Lyon à cause d'une manifestation qui s'était déroulée un mois plus tôt et au cours de laquelle il y avait eu, ma foi, une sorte de bagarre avec des fachos. Et ces personnes ont été inculpées pour cette bagarre, en sachant que on sait pas, ces personnes sont accusées d'avoir tapé quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Les flics ne savent pas non plus qui, a priori. Et sur ces 7 personnes, il y en a exactement la moitié qui ont été placées en détention préventive, exactement la moitié, puisqu'il y en a eu 4 au départ, mais il y en a un qui a été libéré entre-temps.
Exactement, ce qui fait 3,5.
Ce qui fait 3,5. et en tout cas, ces 7 personnes passeront en procès demain après-midi à 14h au Nouveau Palais de Justice. On a dans le studio 2 personnes de leur comité de soutien qui vont peut-être nous raconter un peu plus en détail.
Oui, bah merci déjà de nous avoir invités. Donc en effet, demain se tiendra le procès des 7 inculpés du 23 septembre. Pour revenir un petit peu sur l'affaire, hein, c'est donc une bagarre le 28 août dans le cadre d'une manifestation contre le pass sanitaire à Lyon. Donc une bagarre avec des militants de Civitas, hein, Civitas qui est un parti depuis 2016, qui appartient donc à cette belle galaxie de l'extrême droite bien présente à Lyon. Et Civitas, c'est des cathos intégristes qui sont contre l'avortement, qui sont pour le retour du royaume du
Christ roi.
Du Christ
c'est
roi.
Sur le site, c'est assez clair.
Ce genre de joyeuseté, donc... Donc voilà, ils étaient présents à la manif contre le pass sanitaire, comme beaucoup de FAF le font partout en France. Donc voilà, il y a eu cette bagarre et un mois plus tard, bah, il y a sept copains qui ont été interpellés. Alors certains sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'études. Il y a eu quelques perquises. Voilà, d'autres ont simplement été convoqués. Ils ont tous été placés en garde à vue. À la suite de ces sept gardes à vue, ils sont passés devant le JLD, donc le juge de la liberté de la détention, pardon, qui a donc statué sur ce qu'allait advenir d'eux en l'attente de leur procès, donc qui a été fixé pour le 4 novembre. Le parquet a demandé le placement en détention des sept inculpés. Sachant que certains avaient vraiment aucun casier judiciaire, donc déjà c'est une demande relativement inhabituelle, d'autant plus inhabituelle quand on sait que les supposées victimes, donc les membres de Civitas, n'ont pas du tout porté plainte. Alors tu disais que la police les connaît pas. En fait, ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, c'est que il y a pas de plaignant, donc il y a pas de plainte. Mais la police explique dans les procès-verbaux qu'elle a pu contacter un membre de Civitas, donc une des supposées victimes, qui donc n'a pas souhaité porter plainte. On ne sait pas qui c'est, donc on n'a pas le nom de cette supposée victime. Donc ça interroge à la fois sur la manière d'enquêter de la police, mais aussi sur les liens de la police avec les groupuscules d'extrême droite qui s'agitent beaucoup à Lyon.
Et puis sur le zèle donc, du tribunal qui s'auto-saisit de cette affaire.
Ouais, c'est pour ça que la tribune a été intitulée « Deux poids, deux mesures », parce que c'est quand même assez marquant de voir que là, sans aucune plainte, le parquet s'auto-saisit.
Alors là, on parle d'une tribune qui est parue il y a quelques jours, d'abord sur un blog de Mediapart, et puis qui a un petit peu essaimé et qui a été signée par un paquet de gens, et ouais, plutôt ouais, du beau linge.
Ouais.
Mais
tout
c'est ça, sur l'histoire de deux poids, deux mesures, entre un peu l'extrême droite et les antifascistes, à Lyon en particulier.
Ouais, voilà, c'est une tribune autour de cette justice d'exception, hein, à laquelle on a affaire de plus en plus. Qui mêle, à mon sens, une espèce de nouvelle habitude autour de l'antiterrorisme et de considérer nos luttes aussi comme des associations de malfaiteurs. Enfin, voilà quoi, cette nouvelle tendance et l'habitude qu'ont pris les juges de foutre tout le monde en tôle avec les gilets jaunes. On a eu envie de faire cette tribune qui vraiment s'attache à décrire la procédure judiciaire dans laquelle sont pris nos camarades, en la mettant un peu en parallèle avec l'ensemble des attaques dont ont été auteurs les différents groupuscules d'extrême droite qui sévissent à Lyon depuis quelques années, où pour le coup, pour pas mal d'entre elles, il y a eu des plaintes. Donc je pense à des différentes attaques de la Plume Noire, à la Plume Noire aussi des deux personnes qui faisaient une collecte solidaire qui se sont fait littéralement tabasser par les FAF. Il y a eu des attaques des locaux du PCF. Dans les manifs de Gilets jaunes, on s'est fait attaquer des tonnes de fois par les tarés du Bastion Social et tous les hools du stade.
C'est pas pour mettre Radio Canu au centre des choses, mais notre vitrine, comme qui dirait, est un petit peu pétée tous les deux ou trois mois.
Exactement. Et donc même dans les affaires où il y a des plaintes, donc là où il y a des personnes qui portent plainte, soit le parquet classe sans suite, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas assez de preuves matérielles. Alors la dernière attaque de la Plume Noire, il y a des vidéos qui ont tourné notamment sur les réseaux des FAF, puisqu'ils revendiquaient cette attaque. Hein. Ils sont montés à une quarantaine, montés de la Grande Côte. Les images sont saisissantes. Il y a des vidéos des voisins qui filment d'en haut. Je veux dire, il y a tout un tas de preuves matérielles. Donc tout ça, à chaque fois, c'est classé sans suite, voire même, pour certains cas, c'est laissé dans les tiroirs des flics. Donc les flics ne transmettent même pas au parquet alors qu'il y a des plaintes. Là, dans l'affaire qui nous concerne, il n'y a pas de plainte, mais tiens, miraculeusement, le parquet diligente une enquête pour laquelle il y a une urgence absolue à placer quatre personnes en détention, ce qui, quand même, des personnes qui ont des garanties de représentation, qui ont un travail, qui ont un logement, qui ont des familles, donc avec tout ce que ça implique derrière, on est quand même très étonnés de cette politique de deux poids, deux mesures, et il nous a semblé important, à la fois nous, dans notre riposte politique, voilà, nous on a écrit des communiqués, voilà, mais aussi d'aller concertée plus largement, et notamment les juristes, les avocats, de ce qui se déroulait sur Lyon, notamment parce que les avocats qui s'occupent de l'affaire sont sidérés par le traitement qui est fait par le parquet de cette affaire. Donc il nous semble important aussi d'appuyer là-dessus, non pas qu'on soit extrêmement légaliste, mais parce que je crois que ça dit quelque chose, ça raconte quelque chose de ce qui est en train de se passer avec la criminalisation de nos luttes et aussi avec la montée de l'extrême droite et le fait que, bah, en effet, l'impunité de l'extrême droite, c'est aussi ce qui permet à Éric Zemmour aujourd'hui de tranquillement diffuser ses idées de haine un peu partout et qu'elles aient autant de prises. C'est aussi parce qu'on laisse faire à tous les étages les petits nazis qui sévissent ici particulièrement.
C'est ça, c'est que là, en plus, on parle un peu du rapport entre l'extrême droite, l'extrême gauche et les forces répressives, et que c'est peut-être pas non plus un hasard. Enfin, dans les différents étages, c'est que ça commence par la police, et que la police, c'est pas très neuf, en fait. Il y a eu à des moments des sortes de sondages sur pour qui votaient les flics, et c'est un peu clair que dans la police, il y a un certain nombre de gens qui sont du côté de l'extrême droite. J'ai moins d'idées de comment ça se passe au niveau du parquet ou des juges, mais toujours est-il qu'il y a de toute façon une histoire de classe sociale qui n'est pas neutre non plus.
Ouais, ça, c'est évident. Peut-être pour dire pour le parquet, là en l'occurrence, nous on a été saisis au dernier passage, donc un des camarades qui est passé devant le JLD la semaine dernière, donc le juge des libertés de la détention, pour demander sa libération, qui lui a été refusée évidemment. On a été hyper étonnés d'entendre le parquet expliquer que c'était encore une attaque contre l'autorité publique. Alors, on s'est tous regardés dans le tribunal, mais c'est-à-dire c'est Civitas, c'est pas la police. Et malheureusement, je pense que, je sais pas si c'est un lapsus, mais je pense que c'est...
Il s'est pas expliqué plus du tout.
Non, il a juste dit...
Le procureur se confond.
La police
et casse, quoi.
D'accord. En tout cas, assimile cette attaque à une attaque contre les représentants de l'État. Donc je pense que ça illustre la confusion qui existe et qui n'est pas tellement visible pour le coup.
Est-ce qu'on a la moindre idée de la raison pour laquelle Civitas a refusé de porter plainte, ou une piste, ou une hypothèse ?
Bon, alors déjà, concrètement, je pense je pense que déjà, c'est une bagarre de manif. En fait, on en a quand même vu beaucoup, des bagarres de manif. C'est pas non plus un fait très inhabituel à Lyon, hein, où il y a quand même souvent les cortèges sont quand même souvent attaqués par l'extrême droite. Donc, c'est pas non plus un événement si extraordinaire, malheureusement.
Oui, mais il a sollicité par la police pour tenir le rôle de victime.
Je pense qu'ils se sentent pas spécialement victimes, et puis par ailleurs, je pense qu'ils ont plein de choses à se reprocher et qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à être confrontés à ceux qu'on essaye de désigner comme leurs agresseurs, sachant que la violence, on le rappelle, c'est quand même eux qui la tiennent bien en main avec leurs propos antisémites, homophobes, machistes. Bon, voilà, ils en connaissent un rayon sur la violence, je pense.
Il y a un rassemblement qui est prévu demain après-midi. Dites-nous en plus.
Disons qu'on peut convoquer tout le monde à des 13h, je pense, donc devant le tribunal. Donc il y aura cantine, il y aura de quoi s'occuper toute l'après-midi, il y aura des prises de parole, il y aura toutes les infos qu'on pourra donner. Et 18h, il y a des concerts.
Oui, voilà, il y aura un peu de musique. C'est juste à côté du tribunal judiciaire. Hein, le tribunal judiciaire, il est rue Servian, mais il y a une petite place qui s'appelle la place Marc Aron, qui est juste en face. Et donc, il y aura des stands, voilà, il y aura de quoi s'occuper à peu près toute l'après-midi. Et à 18h, ouais, un peu de zik pour...
Ça serait une longue journée déjà, voilà, en fait.
Pour passer un peu.
Et puis ça va être un gros truc a priori demain, c'est qu'on dirait qu'il y a un certain nombre de gens qui comprennent qu'il y a un gros enjeu. Enfin,
oui.
On compte sur le fait qu'il y aura du monde.
Avant la tribune déjà, on nous disait que le procès en tout cas serait suivi. Donc peut-être que.
Tout à fait, ouais. Je pense que quand même, il y a un enjeu pour tout le monde. Hein. Je crois qu'au-delà de nos 7 camarades qui sont inculpés et qui pour certains, enfin particulièrement ceux qui sont en détention, sont en train de se prendre dans la gueule une répression de ouf pour pas grand chose. Au-delà de ça, je pense que tout le monde a bien conscience que arrêter cette machine infernale, ça passe aussi par cette solidarité-là. Du coup, on a quand même reçu énormément de soutien de la part de, enfin très largement quoi. Notre tribune d'ailleurs, elle regroupe des intellectuels un peu en vue, des avocats, voilà, mais aussi dans tout le milieu militant, enfin assez largement, on a quand même reçu beaucoup de soutien. Je pense que ça inquiète tout le monde, cette situation, et qu'au-delà de cette situation particulière, il s'agit de réaffirmer que l'antifascisme n'est pas un crime, tous ensemble. Et voilà aussi parce que les élections présidentielles approchent et qu'il semble que c'est un combat qu'il va falloir prendre à bras le corps.
Non, et donc c'est ce qui sera un peu l'angle de cette défense-là, enfin, d'en faire un procès plus sur l'angle politique que interpersonnel, et d'où le fait que tu disais que ce sera une longue journée, et avec beaucoup d'argumentaires, et pas mal de... Enfin, vous disiez, il y a un avocat par...
quasiment, il y a plusieurs avocats qui vont plaider demain.
Qui sont coordonnés.
Voilà, ouais, qui ont construit la défense ensemble. En effet, je pense que c'est un procès qui va être politique et dans lequel les arguments politiques, notamment, on va reparler du fait que les fascistes ils sont jamais poursuivis pour leur violence et que là, en l'occurrence, les copains ils sont en tôle. Je crois que la défense, elle ne peut être que politique, parce qu'en réalité, l'attaque, elle est éminemment politique. Pour revenir juste rapidement sur le contexte, ces interpellations, elles arrivent à un peu plus de 3 semaines après une sortie de Laurent Wauquiez sur le Lyon Antifa Fest. Donc voilà, il y a eu un espèce de débat sur les réseaux sociaux à la con, lancé par les FAF, d'ailleurs, que bien entendu, Laurent Wauquiez était trop content de médiatiser, où il a donc retiré les subventions de fonctionnement de la salle de spectacle CCO qui accueillait le Lyon Antifa Fest depuis plusieurs années, en raison du caractère soi-disant haineux du festival. Je précise que le festival s'est toujours super bien passé. Il se trouve qu'il y a un des inculpés qui est membre de ce festival. C'est pas un hasard, l'actualité judiciaire, malheureusement, elle colle très fort à l'actualité médiatique qui elle-même colle très fort à l'agenda politique de la droite et de mecs comme Laurent Wauquiez qui tirent depuis plusieurs mois vers l'extrême droite. Et tout ça, c'est, pour nous, c'est pas du tout un hasard. Et je pense que c'est contre ça qu'il faut lutter, quoi. Et bien sûr, demander la libération de nos camarades. Mais si on l'obtient pas là, des détentions, il y en aura d'autres, quoi.
C'est ça qui fait de ce procès un enjeu très largement au-delà d'un enjeu d'une petite bagarre à l'intérieur du ministère contre le pass sanitaire.
Tout à fait.
Et donc, on rappelle demain, rendez-vous dès 13h devant le tribunal de Lyon. Pour
celui de la rue Servian.
Voilà,
tout à fait. Et on vous invite à nous suivre sur nos réseaux. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Instagram. Parce que, bon, voilà, je pense que malheureusement, l'actualité...
Alors, on peut vous trouver sous quel nom ?
L'antifascisme n'est pas... Comité de soutien aux inculpés du 23-09. Et l'antifascisme n'est pas un crime.
Je crois savoir qu'il y a aussi une petite caisse de soutien.
Tout à fait, ouais, parce que la tôle, ça coûte super cher. Se défendre, ça coûte super cher. Mais voilà, les copains, ils ont besoin de sous pour cantiner en prison. Et quand on n'a pas de thunes en prison, c'est vraiment la grosse galère.
Ouais.
Voilà.
Attendez, si on vient de dire ça, il faut quand même qu'on dise comment on la trouve, la caisse de soutien.
Faut aller sur nos réseaux, parce que là, j'ai pas l'adresse.
Sur la page Facebook du comité.
Si vous tapez comité soutien 2309 sur Facebook et sur Insta, il y a un lien dans la bio pour trouver la caisse.
Ok, super. Eh ben, on vous remercie beaucoup.
Mais venez demain aussi pour nous donner de l'argent directement.
C'est encore le mieux. Et j'allais dire une prochaine, mais on n'espère pas dans un cadre comme ça, en tout cas, mais à demain, oui.
Merci beaucoup, en tout cas, pour l'invitation.
Merci.
Canu Info.
Allez, on passe à autre chose, vous allez voir, que du réjouissant. Cette année encore, les femmes commencent à travailler gratuitement d'une manière dès le mois de novembre, depuis 9h22 ce matin, très précisément. Une date et une heure symboliques calculées par le collectif féministe Les Glorieuses à partir des statistiques données, des statistiques européennes Eurostat sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. C'est-à-dire, si elles avaient été des hommes, et, enfin, le salaire qu'elles touchent, eh ben, pour toucher le même salaire sur l'année, il aurait fallu qu'elles s'arrêtent de bosser ce matin à 9h22. En réalité, elles vont quand même bosser jusqu'à la fin de l'année pour ce salaire-là. Et donc, ce calcul est réalisé chaque année depuis 2015. Et le bilan est sans appel, c'est que chaque année, la date tombe un peu plus tôt. C'est-à-dire que chaque année, les différences de salaire entre les hommes et les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, s'aggravent.
Notamment parce que les femmes ont les métiers les plus précaires. Hein. Enfin, c'est un travail équivalent.
Tout ça est très compliqué dans la manière de calculer, parce qu'effectivement, c'est éventuellement à poste égal, mais en réalité, même à poste égal, elles continuent à être moins payées que les hommes. Mais en plus, il y a cette histoire où les femmes, globalement, ont les travaux, sont plus nombreuses dans les travaux mal payés, dans les boulots précaires, dans les boulots à temps partiel, etc. etc. Mais globalement, à côté de ça, quoi qu'il en soit, même à poste égal, les femmes continuent à être moins payées que les hommes. En tout cas, on peut rappeler que l'égalité homme-femme est une des, ou peut-être même la grande cause du quinquennat. Il l'avait annoncé comme ça au moment de son élection, je ne sais plus, un peu avant, un peu après. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas l'air de marcher très très bien pour cette histoire de salaire, mais autrement, peut-être qu'il y avait ces histoires de féminicide. On a beaucoup parlé ces dernières années, là-dessus, au moins, on a dû progresser. Demandons à Wikipédia. Eh bien, Wikipédia nous dit que depuis le 1er janvier 2016, il y a des gens qui recensent ça de manière un peu précise. Un recensement des femmes présumées victimes de crimes conjugaux est effectué par un collectif militant qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex. Ce n'est pas un collectif qui s'est dit qu'ils allaient faire un nom rock'n'roll, c'est un collectif qui s'est dit qu'ils allaient faire un nom précis. Donc ce collectif scrute quotidiennement les médias en France, c'est-à-dire métropolitaine et outre-mer, les médias présents sur Internet, et ce collectif a recensé 128 féminicides en 2016. Pour 2017, c'est 138. Ah, 2018, réellement, il y en a eu moins, ça a été 120 seulement, mais en 2019, on est remonté à 152. Le 29 décembre 2020, 198 sont présumés avoir été tués par leur compagnon ou leur ex. Autant dire que ça n'a pas l'air de fonctionner non plus. Décidément, cette grande cause du quinquennat a l'air mal partie. Et tiens, pendant qu'on y est, c'est qui le ministre de l'Intérieur? Ah oui, c'est vrai. Mais sur ce sujet, comme sur tous les autres, si on jugeait le gouvernement Macron selon des critères d'entreprise, c'est-à-dire le genre de critères qu'eux mettent en avant, c'est-à-dire l'efficacité, eh ben, c'est sûr qu'il ne serait pas réélu à la prochaine.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
On se souvient de Zineb Redouane, une Marseillaise de 80 ans, décédée après avoir été touchée au visage par un tir de grenade lacrymogène alors qu'elle était chez elle, au quatrième étage d'un immeuble, et fermait ses volets au moment où passait une manifestation de gilets jaunes. C'était en décembre 2018. Eh bien, samedi dernier, le directeur de la police nationale a refusé toute sanction administrative, même pas la convocation d'un conseil de discipline, hein, à l'encontre des deux CRS qui sont incriminés dans sa mort. Alors pourtant, l'IGPN, qui est quand même très 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 frileuse d'habitude en termes de recommandations de sanctions, recommandait à ce moment-là d'envoyer quand même l'auteur du tir et son supérieur devant un conseil de discipline pour leur manque de discernement. Voilà. Mais Frédéric Vaux, qui est donc directeur de la police nationale, a estimé, qui est qui fait office de référent pour les sanctions administratives, donc, a estimé, lui, que, je cite, « la nuit tombante, le bruit, la fumée et l'atmosphère insurrectionnelle de la manifestation des Gilets jaunes peuvent expliquer le manque de discernement des deux hommes ». Voilà, en gros, ils ont des circonstances atténuantes, donc c'est pas de leur faute. Alors, les auteurs du tir sont donc seulement convoqués à un stage pour, je cite l'intitulé du stage, pour rappeler les consignes en vigueur sur l'emploi des moyens de défense. Voilà un stage où on leur apprendra peut-être à lancer des grenades qui touchent plutôt des manifestants et des manifestantes. Et puis, par contre, pour cesser définitivement de faire des morts et des blessés avec, ce sera peut-être pour un autre stage plus tard. Par ailleurs, et malgré les couvertures de sa hiérarchie, on peut rappeler que le capitaine de la compagnie de CRS, des deux CRS en question, le capitaine avait refusé de fournir les armes pour analyse balistique. Donc malgré toutes ces couvertures, l'auteur du tir a finalement été identifié, ce qui est en soi déjà presque un exploit, puisqu'à l'issue de 6 mois d'enquête en juin 2019, il n'avait toujours pas été identifié. Voilà, là désormais il l'est, mais finalement il faut croire que ça ne change pas grand-chose. Si l'enquête administrative est donc clôturée, ça n'a pas d'incidence sur l'enquête judiciaire qui, elle, se poursuit. Elle se poursuit de façon un peu chaotique quand même, puisque, bah, pour rappel, en août 2019, l'enquête qui était menée jusque-là au tribunal de Marseille avait été dépaysée à Lyon, puisque l'information judiciaire avait révélé la présence aux côtés des policiers de la CRS 50 au moment du tir de grenade lacrymogène. Donc, à leur côté, il y avait un magistrat du parquet, c'est-à-dire le procureur adjoint du tribunal marseillais, André Ribes. Donc, le procureur général, lui, justifiait cette décision de déporter le procès à Lyon pour éviter toute forme de suspicion. C'est sûr que là, il y avait un petit peu anguille sous roche. Donc depuis un an, alors ce procès, la machine judiciaire étant ce qu'elle est, c'est très lent. Il n'y a pas forcément d'actualité sur l'aspect judiciaire des choses. Sauf que depuis un an, les avocats de la famille de Zineb Redouane, eux, espèrent que le juge lyonnais réclamera de nouvelles expertises et ils font l'hypothèse donc que ce tir tendu était intentionnel et préventif et que c'est parce que c'est en fait déjà arrivé par le passé pour empêcher des manifestants de jeter des projectiles depuis des positions en hauteur, donc que la destination de la grenade n'aurait donc rien d'accidentel et que c'est effectivement bien de leur faute si Zineb Redouane est décédée suite de cette grenade.
En faveur de cette histoire d'intentionnalité, on a le témoignage de la voisine de Zineb Redouane qui est arrivée dans l'appartement juste après le tir, au moment où Madame Redouane était encore consciente, avait le visage en sang. Et la première chose que Madame Redouane a dit à sa voisine, c'est « ils m'ont visé ». Voilà.
Voilà, donc ça, la partie judiciaire est encore à suivre, mais en tout cas, le côté administratif n'a pas donné grande suite.
Canu Info.
Le risque zéro n'existe pas. Alors tout le monde dit un peu ça n'importe quand, n'importe comment à propos de beaucoup de choses, mais figurez-vous que là, en l'occurrence, la personne qui s'est illustrée récemment avec cette phrase « le risque zéro n'existe pas » n'est autre que Willy Schren, le patron de la Fédération des chasseurs de France. Il s'est senti obligé de dire un petit quelque chose quand même, après qu'un automobiliste qui circulait, alors non pas sur une petite route de campagne, mais bien sur une grosse 4 voies, se soit pris une balle. Cet automobiliste n'est pas mort à l'heure qu'il est, mais enfin, on n'est pas sûr de combien de temps ça va durer. En tout cas, il est dans un sale état à l'hôpital, il est inconscient. Alors, à propos de la chasse, ma foi, c'est sûr que le risque zéro n'existe pas. C'est ce que montre par exemple la mort d'un étudiant, 20 ans, buté pendant une randonnée le 10 octobre 2015, ou la mort la même année d'un autre promeneur, 43 ans, qui se baladait en forêt avec sa femme et qui s'est pris une balle en pleine poire. Ou la mort de cette dame qui taillait sa haie et qu'un chasseur a prise pour un cerf. C'était en 2017, c'était une vieille dame. Le tireur sur cette vieille dame a été condamné par un tribunal, ma foi, d'une sévérité toute relative, puisque pour avoir tué cette dame, il a pris 1 an avec sursis et 5 ans d'interdiction de chasse. Il faut préciser que le procureur avait demandé 10 ans d'interdiction de chasse, mais que le juge a estimé que c'était quand même un peu trop sévère. Dans les activités dangereuses, on peut aussi compter le VTT, comme l'a appris à ses dépens un Anglais qui se baladait sur une route de rase campagne en VTT. Par un temps magnifique, rase campagne, visibilité parfaite, ça n'a pas empêché un jeune chasseur de le prendre pour un chevreuil. Quand je dis qu'il l'a appris, il n'a pas vraiment eu le temps d'apprendre quoi que ce soit, vu qu'il est mort sur le coup. On peut aussi parler de Morgane, 25 ans, qui s'apprêtait à démarrer sa tronçonneuse dans son jardin le 2 décembre 2020, quand un chasseur l'a pris cette fois-ci pour un sanglier. C'est vrai, hein, les histoires de chevreuil, de sanglier et de cerf, je ne les ai pas inventées pour faire les blagues, c'est du vrai de vrai, c'est ce que les chasseurs ont dit.
Quelle défense argumentée.
C'est ça. Alors, on va pas les faire tous, hein, puisque depuis l'année 2000, les chasseurs ont tué en tout 382 personnes en France. Je parle pas du nombre d'animaux qu'ils ont aussi flingués. Bon, parce que c'est pas le sujet du jour, mais il y a aussi beaucoup à dire là-dessus. Mais en tout cas, en humain, on en est à 382 personnes en France. Alors, il se trouve que la plupart de ces gens sont des chasseurs, mais il y a aussi 14% de ces personnes qui sont des victimes innocentes. Pendant la même durée, c'est-à-dire depuis le début de l'année 2000, le terrorisme en France, en comptant le 13 novembre 2015, le terrorisme a fait un peu moins de 300 victimes, c'est-à-dire quand même nettement moins que les chasseurs. Si on ajoute les accidents qui ne sont pas mortels, c'est 2500 personnes qui se sont pris des balles de chasseurs pendant ces 20 dernières années. Ça fait réfléchir avant d'aller aux champignons en automne. Quand je dis en automne, en fait, c'est une énorme partie de l'année, puisque c'est du mois de septembre au mois de février. La chasse, on peut le noter, est le seul sport qui tue, et en quantité notoire, des gens qui ne sont ni pratiquants ni spectateurs, qui ont juste le malheur d'être là, de se balader. Voire de ne pas se balader, d'être dehors chez eux, et de ne pas avoir fermé fenêtres et volets. Bon, là, pendant ce temps, Macron, ma foi, cède à toutes les demandes des chasseurs, aussi bien que si c'était des flics. Pendant le confinement, au moment où les habitants des campagnes n'avaient pas le droit de se balader à plus d'un kilomètre de leur maison, les chasseurs, eux, avaient le droit de courir les bois pour tuer tout ce qui bouge. Qu'est-ce qu'on peut raconter ? Enfin, les plus gros trucs, mais dont on a déjà parlé ici. Un règlement européen interdit des pratiques de chasse particulièrement cruelles et qui visent des oiseaux en voie de disparition. Ma foi, Macron décide de réautoriser ses pratiques contre les règlements européens et l'avis du Conseil d'État. Bon, elles ont été resuspendues entre-temps, à nouveau par le Conseil d'État. Mais voilà, c'est une sorte de bataille juridique, mais où Macron se tient fermement du côté des chasseurs. Heureusement, ça ne s'arrête pas tout à fait là. On a une ministre de l'écologie, Barbara Pompili, qui est d'un courage notoire, comme elle l'a déjà prouvé à maintes reprises. Interrogée sur la possibilité d'une mesure, alors bien sûr un petit peu radicale, de décréter une demi-journée sans chasse dans la semaine, Barbara Pompili a jugé que tout peut être fait, il faut regarder territoire par territoire. Et elle a ajouté que s'il faut un encadrement au niveau national, encore une fois, il y a des débats aujourd'hui. Je n'ai pas peur du débat politique, que le débat s'engage et qu'on regarde jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire si ça se trouve jusqu'à une demi-journée ou si ça se trouve quand même pas. Enfin voilà, Barbara Pompili a pris courageusement position. Enfin, c'est vrai que ça ne veut rien dire finalement ce qu'elle a dit. Juste quelque chose comme, en résumé, on peut parler si on a envie. Et puis comme c'est une année électorale et que la Macronie se rend peut-être compte petit à petit que les campagnes ne sont pas peuplées uniquement de chasseurs mais aussi de leurs victimes, c'est toujours bien qu'une ministre de, ma foi, de rien du tout et qui n'a jamais servi à rien donne aussi à ses victimes une toute petite part de son attention.
Du mercredi.
La semaine dernière, le refuge solidaire de Briançon, qui est le seul à accueillir des réfugiés dans la ville, a fermé temporairement en invoquant un manque de sécurité et de dignité pour les 200 personnes présentes ne pouvant pas être correctement accueillies forcément dans un espace prévu pour 80. Alors je cite les mots de l'association Refuge Solidaire dans leur appel à soutien. Cette tentative de rapport de force avec l'État français, dans l'attente de l'ouverture d'un second lieu d'accueil d'urgence pris en charge par l'État, s'est traduite par les occupations de la gare SNCF de Briançon, ainsi qu'une salle communale vide. Les seules réponses des autorités auront été l'évacuation de ces lieux et, une fois de plus, l'arrivée de près de 200 gendarmes mobiles supplémentaires dans le Briançonnais, ainsi que 10 agents supplémentaires à la police aux frontières de Montgenèvre, faisant gonfler les effectifs du corps répressif à près de 400 individus. Voilà, alors comme il le signale, donc la gare de Briançon a été investie pendant une nuit avec 230 exilés, mais face au risque d'arrestation et de placement en CRA, les exilés et les soutiens se sont ensuite installés dans l'église Sainte-Catherine, qui leur a ensuite fermé leurs portes en vue des célébrations de la Toussaint. Après un passage éclair à l'école du Porel, où tout le monde a été expulsé en moins d'une journée. Alors là, par contre, oui, c'est vrai que l'État a été surefficace hein, pour les traquer au lieu de les reloger. Ils et elles sont maintenant logés sommairement dans deux petites salles appartenant à la paroisse de Briançon. Alors suite à cette fermeture, qui est en fait un geste politique pour demander du changement. Donc, suite à cette fermeture, plus d'une centaine de personnes ont fait route en fin de semaine pour d'autres destinations, notamment Paris. Le 29 octobre, une soixantaine de personnes étaient arrêtées par la police aux frontières de Lyon à la sortie du train. Et puis presque toutes ont quand même été progressivement relâchées au cours de la nuit. Un peu plus d'une semaine après cette fermeture des terrasses solidaires, aucune solution n'a été trouvée pour héberger les exilés à Briançon. Dans la nuit de lundi à mardi, 56 migrants supplémentaires sont arrivés, au total 80 personnes, dont beaucoup d'enfants, attendent actuellement d'être mises à l'abri. Voilà, sans compter toutes celles qui sont parties en train ou autrement dans d'autres villes et qui n'ont pas de solution pérenne non plus. Ça fait plusieurs années que les associations demandent un véritable centre d'accueil à Briançon, qui ne dispose que d'un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc aux capacités très limitées et qui dispose également seulement de la bonne volonté des associations et des habitants et habitantes.
Pendant ce temps, à Calais, il y a trois personnes qui sont toujours en grève de la faim pour demander l'arrêt des opérations de démantèlement de camps de fortune, une demande qui est encore refusée par les pouvoirs publics. Ces gens sont en grève de la faim. Eh bien, écoutez, je ne sais plus exactement depuis quand, mais ça commence à durer un peu. Trois personnes, trois soutiens. Hein.
Ça va faire trois semaines, je pense. Oui.
Radio Canu. 102.2.
Rebelle des radios.
Canu Info.
Alors quand même, on va pouvoir rigoler un tout petit peu dans ce Canu Info. Et attention, dépêchez-vous, c'est maintenant. Vous voyez ce que c'est QAnon ? Quand je dis on va pouvoir rigoler, en fait on va pouvoir rigoler, mais en même temps ça fait flipper. Vous voyez ce que c'est QAnon ? Alors, pour les gens qui auraient loupé des épisodes, QAnon est, comme on dit, une mouvance complotiste. Mais alors, celle-là est particulièrement inventive. Ces gens-là ont inventé toute une histoire, mais alors ultra fouillée, avec des ramifications incroyables. Ça se rapproche du meilleur des romans feuilletons de la grande époque. En résumé, alors ça c'est le résumé de base. Hein. Le monde est gouverné par une organisation secrète dont la branche visible est le Parti démocrate américain. Ces gens enlèvent des enfants. Tout ça se passe dans la cave d'une pizzeria new-yorkaise. Et ces enfants qui ont été enlevés, après, ils les torturent de manière à ce que ces enfants produisent une hormone dont j'ai oublié le nom. Une hormone qu'après, on peut prélever sur eux. Et les gens qui, après, absorbent cette hormone... Eh bien, ma foi, ils ont l'éternelle jeunesse grâce à ça. Tout le Parti démocrate couvre cette pratique, qui est une pratique qui se fait à des échelles absolument hallucinantes, puisque quelqu'un qui a étudié un peu QAnon a conclu que dans chaque école, il y aurait au moins 3 ou 4 enfants qui auraient disparu au cours des quelques dernières années.
Ils se couvrent extrêmement bien, parce qu'il faut dire que l'âge des membres du Parti démocrate américain n'est pas forcément révélateur cette jeunesse éternelle.
Mais alors ça, ma pauvre, si tu savais le nombre de dissimulations, de clones, de fausses personnes, de personnes qui ne sont pas réellement humaines, qui se baladent partout, c'est incroyable. Alors attendez, je continue un peu sur QAnon. Alors toute cette organisation d'enlèvement d'enfants, cette organisation pédosatanique, parce qu'ils sont aussi satanistes. Toute cette organisation sera un jour mise en échec par un héros. Le héros qui sauve l'humanité et qui n'est autre que, parce que ça on le sait, qui n'est autre que Donald Trump. Ça, c'est la base de l'histoire. Mais c'est juste la base. Parce qu'autour de cette histoire, il y a 1000 ramifications. Il y a des choses hallucinantes, il y a des camps souterrains, il y a une interprétation secrète de chaque événement, bien sûr. Il y a de l'aventure. Il y a des enlèvements de personnalités qui sont remplacés par des clones. Des exécutions secrètes, par exemple, Barack Obama, celui qu'on peut encore voir à la télé, est un faux. Barack Obama a en réalité été enlevé par les forces fidèles à Donald Trump qui veulent sauver l'humanité. Il a été exécuté sur une île et le Barack Obama qu'on peut voir aujourd'hui est un clone. Le meilleur du roman feuilleton. Ça serait une œuvre vraiment magnifique s'il n'y avait pas quand même un sacré paquet de gens pour y croire sérieusement. Et ça, c'est quand même assez, assez inquiétant. C'est aux States, mais c'est pas seulement aux States, c'est maintenant dans le monde entier. C'est entre autres en Europe. Ces gens étaient par exemple en masse dans les manifs contre le pass sanitaire en France, en Allemagne, en Belgique et dans différents pays. Bref, leur dernière invention en date, et ça, on rigole et on frissonne en même temps, c'était hier, c'était à Dallas. Et des centaines de personnes se sont rassemblées. Pourquoi ? Elles se sont rassemblées pour assister au grand retour de John Fitzgerald Kennedy Jr., le fils du président assassiné. Sauf que John Fitzgerald Kennedy Jr., ben, ma foi, lui aussi est mort en 1999 dans un accident d'un avion privé. Il pilotait son avion avec sa femme et je ne sais plus, sa sœur ou sa belle-sœur. Ils se sont plantés, mort. Mais John Fitzgerald Kennedy Junior devait réapparaître hier, à Dallas donc, parce que, en vrai, il n'était pas mort. Et il devait, à cette occasion, annoncer... Alors bon, c'est ça, c'est qu'il était... C'est une sorte de prophète miraculeux qui allait venir et annoncer un truc, mais on savait à l'avance ce qu'il allait annoncer. Il allait annoncer le retour de Donald Trump à la présidence, et Trump serait devenu, dans la foulée, le roi parmi les rois. C'est comme ça que c'était dit. Et tout ça est annoncé par tweet d'une sorte de personnage mystérieux qui est infiltré dans la fameuse organisation pédosataniste et qui a accès à énormément d'informations et qui donne à tous ces gens toutes les informations vitales. Donc voilà, Trump allait devenir le roi parmi les rois. Et puis, ça y est, l'heure allait sonner et Trump aurait sauvé l'humanité, tout serait rentré dans l'ordre, ça aurait été fait. Juste, bon voilà, c'est con, JFK Junior a oublié de venir. Mais quand même, le nombre de personnes présentes a été jugé assez flippant par tous les observateurs, même si j'ai trouvé aucun article qui disait autre chose que des centaines.
Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu ? Est-ce qu'on a des pistes ?
Non, alors pour le coup, on n'a pas de pistes.
Est-ce qu'il serait vraiment mort ?
Les membres de QAnon qui étaient sur place se sont. Au bout d'un moment qu'elles attendaient et que rien se passait, ont commencé à chanter l'hymne américain. Et puis là-dessus, ils ont tellement mal chanté que la pluie est tombée. Apparemment, une grosse pluie, et pff, ils ont disparu avant d'arriver à une conclusion sur les raisons de la non-venue de JFK Junior. Peut-être qu'il serait vraiment mort, ça, éventuellement, ça pourrait être mon hypothèse, mais je pense qu'eux en ont une bien plus intéressante.
Donc qu'on découvrira dans le prochain épisode de ce roman feuilleton.
C'est ça. C'est pas sûr que nous on le relaye tous les épisodes, hein, mais renseignez-vous, comme on dit, renseignez-vous sur Internet.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Alors justement, la Macronie, des fois, c'est un peu comme QAnon. Sauf que là, ce qui va nous sauver de toutes les catastrophes, c'est pas Donald Trump, c'est le nucléaire. Depuis une dizaine de jours, je dirais, on entend partout les représentants de la Startup Nation qui viennent nous chanter sur tous les tons que la seule solution pour lutter contre la catastrophe climatique, c'est le nucléaire. Tout d'un coup, tout ce monde se retrouve catastrophé par le sentiment d'urgence, le nucléaire, mon Dieu. C'est maintenant qu'il faut agir pour sauver la planète. Et enfin voilà, quoi, la catastrophe. Ces gens sont devenus écolos, mais alors écolo-catastrophistes, quoi. Enfin, je veux dire, autant que moi, mais sauf que eux, c'est pas pareil parce qu'ils ont cette solution. Il faut recouvrir le monde de centrales nucléaires. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe depuis une dizaine de jours ? C'est qu'il y a un agenda. Cet agenda est dicté en particulier, et après d'autres choses viennent s'enchasser dans cette histoire, mais est dicté là, en l'occurrence, par un truc sur lequel la Macronie n'a pas, n'a pas la main, qui est la date de la COP26. La COP26 vient de s'ouvrir à Glasgow. Elle a commencé le 31 octobre, c'est-à-dire dimanche. Elle doit durer jusqu'au 12 novembre. Et attention, cette fois-ci, c'est pas pareil, c'est du sérieux. Là, on rigole plus, c'est bien la COP de la dernière chance. Cette fois, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à prendre des mesures radicales parce que vraiment, la planète est en danger. On nous le répète sur tous les tons, autant qu'on nous le répétait à l'époque de la COP 21. Entre-temps, ça a été un peu plus, un peu moins la dernière chance, mais là, c'est à nouveau la dernière, quoi. Et d'ailleurs, même avant de commencer, les États n'y vont pas par quatre chemins parce que cette fois-ci, le but, c'est direct de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Attention, c'est pas rien comme engagement, hein. C'est pas rien. Alors, pour les mesures concrètes, bon, des engagements pour 2030, des engagements pour 2050, des engagements pour on sait pas quand, encore après. Enfin, aucun engagement pour la durée moyenne du gouvernement qui les prend, quand même. en 2030, c'est-à-dire la durée des engagements les plus proches, Macron, de toute façon, sera plus là, quoi qu'il advienne, puisque la Constitution lui interdit un troisième mandat. Ça veut dire, même s'il gagne la prochaine, ça serait que jusqu'en 2027. Donc, en 2030, voilà, il est tranquille. Et bon, les autres gouvernements, en gros, c'est pareil. Hein. En tout cas, les gouvernements des pays les plus puissants, ils sont un peu tranquilles. Il n'y a aucun dirigeant qui sera encore là en 2030, encore moins en 2050. Bon, juste avant... Alors, je parlais de timing, mais alors figurez-vous que juste avant l'ouverture de la COP26, c'est-à-dire quelques jours avant, 4 jours avant il me semble, RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, a rendu les principaux résultats de son rapport qui s'appelle « Futur énergétique 2050 ». Et ça tombe bien. Et en plus, son rapport est quand même plutôt pas mal, parce que pour le coup, de gens qui parlent d'histoire de climat et d'énergie et de machin, c'est le premier rapport depuis bien longtemps qui est finalement assez rassurant. En gros, en résumé, il y a carrément moyen, fastoche, d'arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est pas très compliqué, ça coûtera même pas si cher que ça. Ça changera pas grand-chose à nos modes de vie. Enfin, tout ce à quoi plus personne ne croyait. Et là, RTE propose plusieurs scénarios pour y arriver. 6 scénarios précisément. Que je ne vais pas détailler les 6, mais disons en résumé que certains de ces scénarios sont basés sur une sortie du nucléaire et d'autres sur son développement à fond la caisse. Alors tout ça avec une échelle plus ou moins de nucléaire au fur et à mesure des 6 scénarios. Et bon, je ne vais pas trop faire durer le suspense, mais disons que si on sort du nucléaire, ça va quand même être dur, ça va quand même être cher, ça va quand même, il va y avoir du sang et des larmes. Si à l'opposé, on développe le nucléaire à fond, des énormes centrales EPR et plein de mini-centrales SMR. Alors là, par contre, tout va être facile et pas cher. Il faudra juste globalement remplacer nos moteurs thermiques par des moteurs électriques, donc qui fonctionneront à l'électricité nucléaire. Et puis à part ça, bah, ma foi, on va continuer à vivre exactement pareil. Ça, tout le monde pourra continuer à se raser au rasoir électrique, et puis toutes les choses qu'on fait jusqu'à maintenant avec des moteurs thermiques, la tronçonneuse sera une tronçonneuse sur batterie, enfin tout et n'importe quoi. Et puis voilà, fastoche. Et tout ça tombe bien, cette histoire de développer le nucléaire, parce que quelques jours avant encore, mais là c'est plutôt une paire de semaines avant, Macron, ma foi, avait présenté son grand plan de relance pour 2030. Plan de relance dans lequel il parle de filer 1 milliard d'euros. Enfin, il parle de... C'est fermement décidé. Il annonce qu'il filera 1 milliard d'euros pour faire de la recherche sur ces fameuses mini-centrales, futures mini-centrales, les SMR pour Small Modular Reactor. Décidément, tout est cohérent. La COP26, RTE et les annonces de Macron. Et donc voilà, c'est l'ouverture de la COP et la France va maintenant tenter de faire passer sa solution miracle du tout nucléaire. Alors c'est pas entièrement gagné parce que bizarrement, quelques vieux pays tout poussiéreux, tout réactionnaires, sont pas tout à fait convaincus. Bon, il y en a qui ont des raisons qui sont à peu près aussi intéressantes que celles de la France. Hein. Les pays de l'Est de l'Europe, par exemple, bah, ma foi, ils vendent du charbon puis ils aimeraient bien continuer à vendre du charbon. Ça, sûr, ça nous réchauffe le climat vite. Mais pour la France, c'est un gros enjeu de convaincre tout le monde. Puisque par contre, d'autres pays essayent de trouver des solutions alternatives, la France, elle compte vraiment développer ce savoir-faire national. La France est une grande spécialiste du nucléaire. Elle a une fierté là-dessus. Bien sûr, elle est la seule à savoir qu'elle est une grande spécialiste et elle est la seule à croire à ce savoir-faire national. Mais elle compte bien essayer de le vendre au monde entier. Et c'est aussi pour ça qu'il faut mettre autant de fric dans la recherche, parce que c'est ça. Pour le moment, l'international n'est pas toujours hyper convaincu, puisque le fleuron du savoir-faire national français en matière de nucléaire, c'est l'EPR de Flamanville, celui qui devait être mis en route en 2012 et qui sera au mieux, enfin au mieux ou au pire selon les cas, mais disons au plus tôt mis en route en 2022, c'est-à-dire 10 ans après la date annoncée au départ, le machin qui devait coûter 3,3 milliards d'euros et qui a déjà coûté 10,9 milliards, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, puisque un peu régulièrement, on trouve un machin qui était censé être construit, mais en fait, vraiment, ça ne va pas marcher comme ça, on est obligé de le refaire, ça retarde et ça recoûte des sous. Et tout ça avec, on l'a déjà dit 1000 fois ici, une cuve de réacteur, un machin qui est assez important dans une centrale nucléaire et dans la sécurité d'une centrale nucléaire, une cuve de réacteur dont le certificat de conformité a été falsifié par l'entreprise qui l'a fabriqué, puisque l'alliage pour faire l'acier, alors l'acier, vous voyez, c'est du carbone et du fer. Là, en fait, ils ont mis trop de carbone et ça rend cette cuve pas très solide. Mais vu ce que ça a coûté et le temps que ça prend à faire, l'autorité de sûreté nucléaire trouve que tant pis, on va faire avec. Bref, comme technologie de pointe à vendre au monde, c'est pas hyper attrayant. Alors, autant s'acharner et tenter d'inventer autre chose. Voir si la France pourrait pas quand même être leader de quoi que ce soit dans le nucléaire, d'où l'idée de ces SMR, les mini-réacteurs. Ça serait hyper pratique, un tout petit réacteur, on peut les fabriquer en série, donc moins de risques d'erreur, paraît-il. Alors moi, j'aurais plutôt l'impression que comme on va les fabriquer en série, on va en faire plein, ça impliquerait plutôt plus de risques d'erreur. Mais c'est certainement parce que j'y connais rien. On va en foutre partout, on va en vendre à plein de pays, même des pays pas très riches. Moi, j'ai une petite place dans mon jardin, je vais peut-être essayer de m'en payer un. Ou alors peut-être pas quand même, parce que quand même il faudrait un grand jardin, parce que quand on parle de SMR, ça a un petit côté rassurant, le côté c'est petit, c'est mignon. On parle quand même de 50 à 250 mégawatts, c'est pas tout à fait rien à titre de comparaison. La centrale de Fukushima, elle avait 6, alors effectivement c'est pas mal plus gros, hein, mais elle avait 6 réacteurs, dont le plus petit faisait 450 mégawatts, le plus gros 1067. Donc là on parle de réacteurs qui sont de 10 à 20 fois plus petit que chacun des 6 de Fukushima. C'est plus petit, c'est pas minus. Pour l'instant, on ne sait pas non plus grand-chose de ces futurs SMR, puisqu'ils n'ont pas encore été inventés, hein. C'est bien de ça qu'on parle. On a quand même 2 ou 3 éléments. Par exemple, dans les déchets qui devraient être produits par ces réacteurs, il devrait y avoir de l'uranium-233. L'uranium-233, c'est un machin qui est assez facile à utiliser pour faire de l'uranium militaire. Alors, comme l'idée, c'est de vendre plein de SMR à plein de pays, y compris à des pays qui n'ont pas énormément de sous, chacun de ces pays se retrouvera avec une possibilité facilitée d'avoir, ma foi, des bombes atomiques. Alors, ce serait certainement bon pour la sécurité globale de la planète, du moins si on s'appuie sur la théorie de l'équilibre de la terreur. Mon voisin a la capacité de me balancer une bombe sur la gueule, j'ai une capacité de lui balancer une bombe sur la gueule, donc tout le monde va éviter de le faire. C'est nettement moins rassurant si on pense plutôt à la théorie de la possibilité d'un dirigeant un peu exalté. C'est pas comme si on en avait zéro autour de la planète. En passant, on pense aussi que l'électricité produite par les SMR devrait être, ma foi, super chère. Sans doute 2 fois plus chère que l'électricité qui est produite par les grosses centrales. Enfin bon, ça, de toute façon, toujours plus compliqué à compter, puisque selon ce qu'on prend en compte. Puisque, par exemple, on ne sait toujours pas combien aura coûté la construction du premier EPR. On est déjà passé là-dessus. Bref, que du bonheur. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le nucléaire en soi. Petit, gros, nouveau, classique, n'importe. Le nucléaire et ses accidents. Le nucléaire et ses déchets. Le nucléaire et sa durée de vie. Et le nucléaire dans un monde de plus en plus chaotique. Alors, plusieurs questions, ma foi. Commençons par celle des déchets. Combien de temps les déchets des centrales nucléaires sont dangereux? Alors, ça dépend desquels. Il y en a qui sont hyper dangereux, mais pas forcément longtemps. C'est-à-dire, on parle quand même de quelques dizaines d'années. Et puis, ils sont de moins en moins dangereux, ils sont moitié moins dangereux. Ceux pour lesquels ça dure le moins, ils deviennent moitié moins dangereux au bout de 31 ans. Mais alors ceux-là, ils sont vraiment ultra, ultra dangereux. Il y en a d'autres qui sont moins dangereux, mais quand même, il ne faudrait pas passer trop de temps à côté, parce que quand même, on en mourrait. Et ceux-là, ça peut durer longtemps, plus longtemps, beaucoup plus longtemps. On parle ici de 300 000 ans pour qu'ils deviennent moitié moins dangereux. 300 000 ans. Autant dire que, pour donner une idée de ce que ça veut dire 300 000 ans, si on tente un coup d'œil vers le passé de l'humanité, par exemple, l'écriture a été inventée il y a 5 ou 6 000 ans. Là, on parle de 300 000 ans de danger. Des spécialistes, par exemple, se penchent sur la manière possible d'indiquer les emplacements d'enfouissement d'une manière qui pourra durer pendant 300 000 ans, c'est-à-dire au moment où plus personne n'aura la moindre idée de ce que voulait dire aucune des langues parlées aujourd'hui sur Terre. Mais c'est même pas la peine d'aller jusque-là, parce que depuis qu'on produit des déchets nucléaires, c'est-à-dire depuis les années 30, on se demande un peu quoi faire de ces déchets. Vous avez remarqué qu'on vient de dire 300 000 ans, dire depuis les années 30, ça fait vraiment comme... C'était avant-hier, c'était hier, c'était il y a une minute. Et en tout cas, depuis les années 30, une des idées lumineuses qui avait émergé, ça avait été de les balancer au fond de la mer, et puis pour plus de sûreté, de les couler vers le pôle Nord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Arctique est plein en particulier de sous-marins nucléaires soviétiques, mais aussi d'essais de bombes toujours soviétiques, russes, et puis aussi de déchets produits par des mini-centrales construites par les Américains en Alaska pour alimenter en sécurité des camps militaires. Alors là, pour le coup, c'était des vraiment mini-centrales, encore plus petites que les SMR, c'était des machins qui faisaient 20 comment ça s'appelle, méga, je sais plus quoi, là. Le truc où les SMR en feraient de 50 à 450. Malgré tout, ça a fait des déchets et des déchets que, bon, Allez, ils ont balancé dans la mer, puisque de toute façon, il y avait la mer et il y avait de la glace. Et je passe sur des saloperies produites par le Canada, la Suède, la Finlande. Alors voilà, c'est un peu con, mais maintenant, avec le réchauffement climatique, bah, ma foi, il y a vachement moins de glace. Et puis, même avec la glace, en fait, c'était finalement pas si solide que ça, on s'est rendu compte. En particulier, un ancien savant militaire russe, un certain Alexandre Nikitin, qui a écrit un rapport où, à propos de l'Arctique, il parle de Tchernobyl au ralenti. Alors, ma foi, quand il a écrit son rapport, il a d'abord été envoyé en prison pour haute trahison ou je ne sais quoi. Non, espionnage, je crois. Et puis, finalement, Poutine a préféré le sortir de prison et puis lui demander de participer à réfléchir sur la gestion du BINS. Et Poutine est quand même assez inquiet pour préférer ouvrir toutes les informations nationales, en tout cas de ce qu'il dit, mais c'est-à-dire en parler, lui, alors que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était un truc dont, bien sûr, aucun dirigeant soviétique ou russe, d'après les soviétiques, n'a voulu prononcer le mot de près ou de loin. Mais là, il veut plutôt en parler à l'occasion du prochain Conseil de l'Arctique, qui est une sorte de un des rassemblements multilatéraux de pays. Mais là, pour le coup, les pays du Nord et du Grand Nord. Et il veut en parler avec tout le monde pour tenter de trouver une solution. Sauf que pour l'instant, on est bien d'accord, personne n'a la moindre idée de ce que pourrait être cette solution pour toutes ces saloperies qui traînent là-bas. Et qui, c'est ça, qui en fait, qui font des trous vers le bas, mais qui bousillent aussi l'eau des océans, puis l'eau, ça circule, quoi, c'est un peu la merde. Les déchets, du coup, entre-temps, qu'est-ce qu'on en fait des déchets depuis qu'on n'est plus les années 30, 40, 50, le moment où on en a blindé l'Arctique? Eh ben, on en fait plus ou moins n'importe quoi. Les pays qui ont du pognon payent des pays qui ont moins de pognon pour accepter ces déchets. La France, par exemple, le nie, mais plusieurs journalistes ont trouvé que, effectivement, si, ça avait l'air un peu certain. La France file des déchets nucléaires et du pognon, par exemple, à la Russie. Qu'est-ce qu'on en fait? On les coule dans des blocs de verre, on les coule dans du béton, on les enterre. Ça, cette histoire d'enterrer, c'est la solution à long terme choisie par la France. On a parlé mille fois ici de Bure. On fait un grand trou à Bure, donc, et on balance tout dedans. Ça semble être une bonne solution, comme il y a 90 ans, ça semble être une bonne solution de les aborder dans le Grand Nord. C'est connu, le sous-sol, c'est un machin parfaitement immobile, stable, où il n'y a rien qui passe. Et depuis toujours, et certainement pour les 300 000 ans à venir, on peut compter dessus. Mais cette histoire de réchauffement climatique, c'est pas seulement un problème pour les déchets. C'est aussi un problème pour les centrales. Les centrales, ça a besoin d'eau. Ça a besoin de beaucoup d'eau pour refroidir le BINS. Autrement, ça pète. Alors, on a construit des centrales à proximité des fleuves. On en a construit au bord de la mer, parce que c'est les endroits où il y a de l'eau fastoche. Bon, c'est un peu con, parce qu'avec ces histoires de réchauffement climatique, alors, pour les centrales à côté des fleuves, eh ben, il y a de plus en plus de fleuves dont le niveau baisse. Baisse un peu, baisse beaucoup. Potentiellement, dans les années qui viennent, on ne sait pas, baisse potentiellement énormément. Autant dire que les activités sur les fleuves, sur les fleuves ou les rivières, les activités en amont des centrales nucléaires sont hyper, hyper surveillées. Il ne faut pas enlever une goutte d'eau dans ces cours d'eau, parce que c'est quand même assez vital. Et de fait, ça serait vraiment grave. Hein. Mais moi, je suis plutôt pour que ça soit surveillé, qu'il y ait des flics, qu'il y ait tout ce qu'on veut. Voilà. Les centrales qui sont construites au bord de la mer, eh ben elles, pour le coup, c'est le problème inverse. C'est que avec les histoires de degrés, de fonte des glaces dans les pôles, le niveau des océans, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Et donc, il monte au point que certaines des centrales sont menacées d'être noyées un jour ou l'autre. Alors noyer, on pourrait se dire, bon, bah, c'est bon, elles seront sous l'eau, on n'aura qu'à appuyer sur le bouton off, et puis on sera tranquille. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, puisque les centrales, une fois qu'on les a construites et qu'on les a mises en route, si on veut les arrêter, on ne peut pas juste tourner l'interrupteur et se barrer. Une centrale, il faut continuer à s'en occuper pendant des dizaines d'années après qu'elle ait été arrêtée. Et personne ne sait précisément comment il faut faire pour le moment où on arrête de s'en occuper, vu que pour l'instant, ça n'a encore jamais été fait. Tous ces endroits hyper dangereux peuvent aussi... Parce que c'est ça, en fait, là, on est dans un monde où il y a ce problème d'une instabilité climatique. Ce n'est pas tout à fait la seule instabilité qu'on a dans ce monde. Et n'importe qui ouvre une fois de temps en temps un journal d'information sait que dans les dernières années, on va vers un truc un peu chaotique globalement. On va vers des conflits où les gens sont de plus en plus énervés. Les gens entre... Enfin bon, vous voyez quoi. Ma foi, tous ces endroits hyper dangereux peuvent aussi être des cibles dans une guerre. Quelqu'un qui a des avions et des bombes peut toujours décider de bombarder une centrale ou de bombarder un site d'enfouissement. C'est pas la peine d'avoir des avions et des bombes. Un dingue, comme on pourrait se dire que ces dernières années, on en a vu un certain nombre. Un dingue qui se dirait j'ai envie de tuer plein de monde. Ma foi, il peut prendre un camion et foncer dans des badauds qui regardent un feu d'artifice. Il peut prendre une arme et aller mitrailler des gens à des terrasses de café. Mais il peut aussi toujours tenter d'aller faire péter une centrale. Et quand on sait que n'importe quel militant de Greenpeace qui se lève du mauvais pied rentre dans une centrale quand il en a envie, autant dire qu'un djihadiste dont ça serait le sens de la vie et de la mort, et qu'il aurait extrêmement envie de buter énormément de monde et de faire un gros gros dommage qui dure sur du très long terme, ma foi, une centrale, ça semble être une idée qui risque de lui venir à l'esprit à un moment ou à un autre. Voilà, autant dire que le nucléaire, dans un monde stable, ça serait une sacrée série d'autres problèmes. Mais en tout cas, là, on n'est pas dans un monde stable, et on est donc dans un monde où il y a à la fois des problèmes de climat, et des problèmes de gens cinglés à différents échelons, individuels ou de gouvernement. Autant dire que le nucléaire, dans un monde où on pourrait faire confiance à nos dirigeants, eh ben, ça serait aussi complètement autre chose. Mais en l'occurrence, on est dans un monde où il y a des histoires de pognon, des histoires de coûts, des histoires de rapidité, des histoires de machin, celles qui font qu'à des moments, il y a des gens qui disent « Ah, il faudrait vérifier ça, il faudrait vérifier ça, il faudrait vérifier ça. » Et puis on leur dit « On n'a pas le temps, on leur dit « C'est trop cher. » Et là, on a Tchernobyl, et là, on a Fukushima, et là, on a l'EPR de Flamanville, où du coup, pour l'instant, on est au courant de cette histoire de cuve merdique. Et tout ça va donc durer un temps assez incroyable. Et ben voilà, et ben c'est l'avenir radieux que nous propose la Macronie pour sortir des problèmes de réchauffement climatique, puisque, et ça c'est vrai, le nucléaire est une énergie décarbonée qui ne réchauffe pas le climat. C'est un peu comme si, au moment où la maison brûle, quelqu'un disait « C'est super, j'ai un énorme stock de dynamite, on n'a qu'à le balancer sur l'incendie et comme ça, la maison arrêtera de brûler. »
Et on conclut sur ça, on conclut ce Canu Info en vous rappelant quand même que demain, donc vous êtes les bienvenus devant le tribunal judiciaire à partir de 13h pour soutenir les inculpés antifascistes lors de leur procès. Donc rendez-vous dès 13h au 67 rue Servion.
Et on nous a bien dit de vous le répéter, ne mangez pas avant, il va y avoir une tonne de bouffe.
Voilà, donc ne mangez pas et rendez-vous à 13h au tribunal judiciaire de Lyon. Voilà, et nous, on se retrouve dans 2 semaines.
Ouais.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Rebelle des radios.